Bonjour mes loulous. Alors, on va innover et essayer un petit cours de civilisation, mais en version audio. Alors, vous vous souvenez que dans le texte de la dernière séquence, nous avions un petit peu fait connaissance avec les druides, puisque un druide était interviewé dans ce texte. Alors, vous vous souvenez tous de ce qu'est un druide. Pour rappel, c'est un personnage très important chez les Gaulois. On avait vu qu'il pouvait être prêtre, puisqu'il faisait des sacrifices. Il pouvait être juge, il pouvait également être professeur, et philosophe également, puisqu'il discutait, souvenez-vous, de la grandeur du monde et du pouvoir des dieux. Alors, tout ce que je vais vous raconter sur les druides, d'où est-ce que je tiens mes informations? Eh bien, c'est un problème parce que les druides et les Gaulois, en fait, n'écrivaient rien à propos de leur religion. Alors pourquoi ne rien écrire du tout à propos de leur religion? Eh bien, c'était pour éviter que leur connaissance, leur savoir, tombent entre de mauvaises mains. Du coup, les druides, quand ils se transmettaient leur connaissance, ils le faisaient uniquement oralement. Ça veut donc dire qu'ils avaient une énorme mémoire et qu'ils utilisaient celle-ci pour retenir les potions, l'usage des plantes, etc. Donc on n'a aucun texte écrit venant de la part des Gaulois. Alors vous allez me dire, comment est-ce que je sais certaines choses sur les Gaulois? Eh bien, pas grâce aux Gaulois justement, mais grâce à un autre peuple qui a beaucoup fréquenté les Gaulois. Alors est-ce que vous avez une petite idée? Oui, évidemment, ce sont les Romains. Les Romains ont écrit à propos de la religion des Gaulois, et surtout un Romain en particulier, celui qui va conquérir les Gaulois, c'est Jules César. Jules César a fait quelque chose d'assez étonnant pour l'époque, c'est qu'il a écrit un livre, en latin De Bello Gallico, La guerre des Gaules en français. Alors de quoi parle ce bouquin? Le titre le dit, eh bien ça parle de la guerre qu'il va faire en Gaule. C'est donc assez étonnant parce que c'est un bouquin écrit par quelqu'un qui a véritablement participé à cette guerre. Donc Jules César va écrire un livre où il va évidemment détailler les batailles, les chefs ennemis qu'il va réussir à combattre, mais il va également parler des druides. Alors, connaissant César, sachant que c'est un Romain, ennemi des Gaulois, est-ce qu'on peut prendre au pied de la lettre tout ce qu'il va nous écrire, tout ce qu'il va nous raconter? Non, évidemment. Il faut garder ça en tête. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a une phrase assez célèbre qui parle de la Belgique, écrite par Jules César, qui dit « De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. » C'est chic, c'est sympa, c'est valorisant, mais on ne dit jamais la fin de la phrase « parce qu'ils sont le plus éloignés de toute civilisation. » Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que César trouvait qu'on était les plus braves, c'est-à-dire les plus courageux au combat, parce qu'on était les plus sauvages, on n'était pas du tout civilisés. Et donc César va avoir tendance à dire que les Gaulois qu'il affronte sont de redoutables guerriers, qui n'ont peur de rien, et qui sont très très forts sur le terrain militaire. Ce sont plutôt des compliments, vous êtes d'accord? Alors pourquoi est-ce que César, ennemi des Gaulois, fait autant de compliments aux Gaulois? Vous avez une idée? C'est une façon de se faire des compliments à lui-même. Puisque César a vaincu les Gaulois qui sont de redoutables guerriers, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que César est encore plus fort que ces redoutables guerriers, est encore plus fort que les soldats gaulois. Donc, ce que nous raconte César sur les Gaulois est intéressant, parce qu'on n'a quasiment que les textes romains pour nous aider, mais il faut garder, comment dire, une certaine distance par rapport à tout ça, et ne pas croire tout mot pour mot, ça va? Mais ça reste un témoignage intéressant. Alors, que dire d'autre? Les Gaulois, avant que les Romains débarquent chez eux, apparemment, étaient un peuple assez religieux. Mais je vous l'ai dit, aucun texte écrit ne nous est parvenu, du coup, c'est grâce à César qu'on sait plein de choses. D'où viennent les druides? Eh bien, les druides, à la base, ne sont pas gaulois. Ils viennent de Bretagne. Alors, est-ce que vous savez, la Bretagne, c'était quel pays aujourd'hui? Bien, la Bretagne, c'était l'Angleterre. Donc, les druides viennent d'Angleterre, ils se sont installés en Gaule, et ils ont pris, effectivement, de plus en plus d'importance dans la société. Il faut savoir qu'aucune décision n'était prise sans leur accord, Et comme ce sont des personnages importants, ils sont toujours issus d'une classe sociale très élevée. Donc ce n'est pas n'importe qui peut prétendre à devenir druide. On a vu dans le texte que les fonctions des druides sont très diversifiées, sont très variées. Donc on a dit qu'ils étaient professeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils transmettent, souvenez-vous, c'est ce que disait le texte, ils transmettent leurs connaissances à la jeunesse. Et l'une des choses qu'ils apprennent aux jeunes Gaulois, c'est l'immortalité de l'âme. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'immortalité de l'âme? Eh bien ça veut dire qu'on ne meurt jamais vraiment. Le corps meurt, mais notre âme, c'est-à-dire nous, notre essence, ne meurt jamais. Et cette croyance pourrait peut-être expliquer le fait que les Gaulois étaient des soldats très courageux parce que du coup ils avaient un petit peu moins peur de mourir que les Romains. Ils étaient aussi juges, souvenez-vous, c'est eux qui règlent les conflits. Alors ça peut être des conflits entre deux Gaulois d'un même village, ça peut être des conflits entre deux villages, ça va. Donc c'est lui qui décide, c'est aussi lui qui fixe les peines, les punitions, les dédommagements. Souvenez-vous, les dédommagements, c'est une somme d'argent par exemple ou quelque chose à donner en échange d'une bêtise qu'on a faite à quelqu'un d'autre. Comme c'était des personnages importants, leurs décisions devaient être respectées. Alors qu'est-ce qui se passait si quelqu'un ne respectait pas leurs décisions? Eh bien, quelque chose de très grave, non pas la mort, non, pire que ça pour les Gaulois, ils étaient privés de sacrifices. Ils ne pouvaient plus assister aux sacrifices. Alors c'est un peu comme si aujourd'hui, on vous disait, tu n'as pas été sage, donc du coup tu ne peux pas aller à l'église ou à la mosquée. Pour certains, vous allez me dire, c'est pas vraiment une grave punition, mais pour les Gaulois, c'était extrêmement important et très grave de ne pas participer au sacrifice, parce que du coup, on se mettait les dieux à dos. On ne faisait pas son boulot d'adorateur, donc on n'honorait pas les dieux, et donc du coup, les dieux après pouvaient se venger. Donc, on avait plutôt intérêt à obéir aux druides. Les druides avaient, certains druides pouvaient aussi être différentes choses. Certains étaient astrologues. Alors, astrologues, vous avez sans doute déjà entendu ça aujourd'hui, sont des personnes qui interprètent l'avenir d'après les étoiles. Ça existait déjà dans l'Antiquité. Alors, certains pouvaient être un petit peu sorciers, guérisseurs, notamment parce qu'ils connaissaient les plantes. D'autres étaient devins. Alors, devin, ça a donné le verbe deviner. Donc, un devin, c'est aussi une espèce de prêtre, mais qui va prédire l'avenir grâce à certains signes. Ça peut être notamment en examinant les oiseaux. Mais la fonction principale du druide, c'est de diriger la religion. La religion est très importante chez les Gaulois parce que c'est leur seul point commun. Si vous visualisez la carte de la Gaule, il y en a une en classe juste à côté de l'horloge, ça équivaut en gros à la France et à la Belgique, eh bien, tous ces peuples, chaque ville était un village, était un mini-pays. Donc chaque ville était un mini-pays avec ses propres règles, son propre chef, etc. Et donc, certains peuples ne s'entendaient pas du tout les uns avec les autres. Mais le seul point commun qui unissait tous ces peuples gaulois, c'était leur religion. Religion très importante. Alors, d'après ce qu'on sait, la principale activité de cette religion semble avoir consisté dans le fait de faire des sacrifices publics et privés. On en parlait dans le texte. Alors, les sacrifices, c'est quoi? C'est quand on sacrifie une vie en l'honneur des dieux, soit pour honorer les dieux, soit parce qu'on a, quelque chose à demander. Ces sacrifices pouvaient être publics et privés, on en a parlé en classe. Donc, public, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'ensemble du village qui commandait le sacrifice parce que l'ensemble du village avait quelque chose à demander aux dieux, ou devait honorer le dieu pour se faire pardonner de quelque chose. Un sacrifice privé, ça c'est différent, c'est une personne ou une famille qui commande un sacrifice parce qu'elle a un truc particulier à demander au dieu. Et donc c'est le druide qui s'occupait de ça. Alors ces sacrifices, pour en parler un petit peu, c'est une victime qui était sacrifiée et la plupart, les sacrifices en général dans l'Antiquité romaine, c'était on sacrifiait des animaux, ça va, un taureau, une vache, un mouton, etc. Mais Jules César parle dans son livre Le De Bello Gallico de sacrifices un petit peu particuliers, de sacrifices humains. Alors, toujours d'après César, il a assisté à des sacrifices où ce sont des êtres humains qui étaient offerts aux dieux. Et César raconte même que dans certains villages, dans certaines villes, c'était des sacrifices collectifs. Il parle de grandes poupées en osier. Alors l'osier, c'est une matière végétale. Ce sont des espèces de tiges qui sont entrelacées et on peut faire des paniers, des chapeaux en osier comme ça. Donc c'était des immenses poupées de plusieurs mètres de long qui étaient vides, creuses à l'intérieur. Les Gaulois poussaient des gens à l'intérieur et puis mettaient le feu à ces poupées. Donc, les gens, effectivement, qui étaient prisonniers dedans, mouraient dans d'atroces souffrances. César explique pourquoi ces sacrifices humains. Eh bien, donc soit c'est un village, à nouveau, c'était un sacrifice public, c'est le village en entier qui devait sacrifier, ou alors il y avait des sacrifices privés. Donc c'est quelqu'un qui demandait aux druides de sacrifier une autre personne. Alors on suppose qu'on ne sacrifie pas n'importe qui, des criminels ou des esclaves, des choses comme ça, donc des gens sans importance, entre guillemets. Alors quel est l'intérêt de sacrifier une vie humaine? Eh bien, César nous dit que c'était pour plusieurs raisons. Soit parce que la personne qui commandait le sacrifice était malade. Et donc, elle se disait, si je suis malade, c'est parce que les dieux veulent que je meure. Donc, si je fais mourir quelqu'un avant moi, à ma place, ça voudra dire que le dieu sera satisfait et moi, je serai tranquille. Même chose, si un soldat doit partir pour une bataille assez dangereuse, il peut, toujours d'après César, commander un sacrifice humain pour éviter que lui ne meure. À nouveau, c'est le même raisonnement. Le soldat se dit, si je dois mourir au cours de cette bataille, c'est parce que les dieux le veulent. Mais si je fais mourir quelqu'un d'autre avant moi, ça m'épargnera, d'accord? Donc ça c'est César qui le dit. Et encore aujourd'hui, en 2020, on ne sait pas, ça va? Il n'y a rien d'étonnant dans le fait que Jules César, dramatise un petit peu le côté sacrifice humain chez les Gaulois, parce que pour un Romain, c'est horrifiant, un peu comme nous aujourd'hui, d'accord? Donc ça permet à César, en disant cela, de faire passer les Gaulois pour des créatures sanguinaires et effroyables. À nouveau, du coup, vu qu'il les a battus, il est encore plus fort qu'eux. Ça va ? Donc, les spécialistes aujourd'hui ne savent pas. Certains disent que c'est peut-être possible, d'autres disent totalement que c'est faux et que c'est un petit délire de César à nouveau. Donc, point d'interrogation, sacrifice d'animaux, ça, c'est sûr et certain. On a également parlé du matériel du druide dans votre texte. Vous savez, il y avait une espèce de petit couteau en forme de demi-lune pour découper une plante. Ce couteau en demi-lune, souvenez-vous, ça s'appelait une faucille. Alors la faucille, c'est l'outil absolu du druide. Et souvenez-vous, cette faucille est en or. Et cette faucille lui permet de cueillir l'arbre sacré par excellence, la plante sacrée par excellence, c'est le gui. Alors le gui, là aussi on en avait parlé en classe, c'est une petite plante parasite. Parasite, souvenez-vous, c'est une plante qui a besoin d'une autre plante pour se nourrir. C'est une plante qui pousse en forme de boule sur certains arbres. Donc c'est des feuilles, des tiges et des feuilles vertes avec des petites boules blanches. Et donc ça pousse effectivement en formant des grosses boules comme ça. Et donc ce gui était considéré comme sacré par les druides. Sacré, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça vient des dieux. Donc, c'est pas n'importe quel gui qui était considéré comme sacré, c'était une sorte de gui qui poussait sur une sorte d'arbre bien précis, c'est le chêne rouvre. Donc c'est assez rare, du coup, comme c'est rare, c'est forcément envoyé par les dieux. Ce gui qui pousse sur ce chêne rouvre, on ne le cueille pas n'importe comment, on l'a dit avec une faucille en or, mais on ne le cueille pas n'importe quand. Cette coupe se fait uniquement le sixième jour de la lune. Et oui, ils observaient le cycle de la lune, et donc au sixième jour de son cycle, c'est là qu'on pouvait découper le gui. D'ailleurs, d'accord ? C'est pas un hasard, pardon, que la faucille soit un peu en forme de lune, d'accord ? Ils coupaient ce gui, ils étaient apparemment habillés en blanc et ils devaient récolter ce gui dans un linge blanc. Voilà, encore un petit mot sur les devins, on en a parlé, donc ceux qui prédisent l'avenir, c'est ce qu'on appelle l'art de la divination, l'art de prédire l'avenir. Alors il y a plusieurs façons de prédire l'avenir dans l'Antiquité, notamment par les devins, soit par les rêves, donc en interprétant les rêves des personnes, ils peuvent prédire l'avenir, en examinant les entrailles des animaux et surtout des oiseaux. Donc les entrailles, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'animal, donc c'est-à-dire foie, intestin, etc. Donc les Romains pratiquaient ça aussi, notamment sur des oiseaux, sur des poulets. Et donc en examinant l'intérieur de ces bestiaux, eh bien ils pouvaient prédire l'avenir. Et un grand classique pour prédire l'avenir, c'est le vol des oiseaux, commun aux Romains aussi. Donc d'après le type d'oiseau qui vole, d'après la forme du vol, etc., il y avait moyen, par les spécialistes, de prédire l'avenir. Un dernier mot sur la religion gauloise. C'est une religion polythéiste, comme la plupart des religions dans l'Antiquité. Polythéiste, vous vous souvenez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils honoraient plusieurs dieux. Et ils avaient beaucoup de dieux, les Gaulois aussi, puisqu'on en compte à peu près 400. Plus de 400 dieux. Petite particularité, ils étaient ce qu'on appelle des animistes, les Gaulois. Alors, animiste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du latin anima, qui veut dire l'âme. C'est-à-dire qu'ils adoraient les éléments de la nature, comme le ciel et les arbres, les étoiles, les eaux, les fontaines, les pierres, etc. Tout ça, pour eux, était des espèces de dieux sur terre. Donc, très, très, comment dire, très soucieux de l'environnement et de la nature, parce que pour eux, c'était divin. C'est un petit peu, si vous y connaissez, un petit peu comme les Indiens d'Amérique. Bah, eux aussi considèrent que les éléments de la nature sont des dieux. Comment est-ce qu'ils symbolisaient leurs dieux? Vous le savez, les Romains, on l'a vu, représentaient leurs dieux sous forme humaine. Hein, souvenez-vous de toutes les petites statuettes qui sont en classe. Les dieux sont représentés sous forme humaine. Eh bien, chez les Gaulois, ils sont plutôt représentés sous forme animale. Et donc, ça va être des animaux, symboles généralement de la force et du courage, comme par exemple le taureau, le cheval, etc. D'ailleurs, vous verrez une petite illustration d'une statuette sur les feuilles que vous trouverez plus loin. Alors, je vous ai dit que les druides venaient de Bretagne, mais est-ce que les druides, ça existe encore aujourd'hui? En fait, non, cette religion a disparu. Alors, comment ça se fait? Eh bien, la fin des druides est marquée par un empereur romain, un empereur qui s'appelait Claude, et qui a vécu au 1er siècle de notre ère. Claude détestait les druides parce que c'était, comment dire, il était très, très, très angoissé, Claude. Il avait très, très peur de ces personnages parce qu'il trouvait que les druides étaient des personnages très influents et très puissants. Et que du coup, bah, ils étaient beaucoup écoutés par les Gaulois qui pourraient suivre une révolution menée par les druides contre les Romains. Du coup, Claude, qui était un petit peu superstitieux, décide de mettre fin à la religion des druides. Il va les chasser purement et simplement du territoire en interdisant la pratique de cette religion. Donc là, on est quand même à peu près 100 ans après que César a envahi le territoire. Ça va, donc ça veut dire 100 ans que les Gaulois appartiennent à l'Empire romain. Donc malgré ça, Claude fait interdire cette religion. Très rapidement, bah, les druides vont petit à petit disparaître du territoire gaulois. Ils vont néanmoins trouver un pays où se réfugier. Alors, est-ce que vous auriez une idée d'un pays, pas très loin de la Gaule, où encore aujourd'hui, bah, cette tradition des druides, des fées dans les bois, etc. existe encore? C'est en Irlande, juste à côté de l'Angleterre, c'est en Irlande que les druides vont se maintenir, mais en Gaule, ça va tout à fait disparaître. D'accord? Donc j'espère que mes explications ont été relativement claires. N'hésitez pas, hein, vous pouvez toujours m'envoyer des questions par mail, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je terminerai par une petite explication des images que vous trouverez sur les feuilles de civilisation, vous pouvez d'ailleurs les prendre près de vous si vous voulez. Donc ça commence avec une petite illustration tirée d'une bande dessinée qui est la BD Astérix. J'espère que vous en avez déjà tous lu, sinon je vous le conseille, c'est très très drôle à lire. Donc on a Panoramix, le druide du village d'Astérix. Alors vous reconnaissez la totale. Donc il est représenté vieux, avec sa longue barbe blanche. Vous repérez à sa ceinture la fameuse faucille en or et il est en train de préparer une potion. On retrouve également une image tirée de la BD Astérix au verso, où là, c'est une réunion de druides. Vous le savez, dans le texte, on vous le disait que chaque année, il y avait une réunion générale des druides, une assemblée générale des druides, où tous les druides de toute la Gaule se réunissaient chez un peuple en particulier. Vous vous souvenez? C'était les Carnutes. Donc chez les Carnutes, il y a une forêt sacrée qui est réservée uniquement aux druides, et donc une fois par an, tous ces druides se réunissaient pour faire le point sur la politique, échanger des nouvelles de leur pays, échanger des recettes, etc. Et donc ici, le dessinateur a illustré cette réunion, où vous repérez Panoramix qui est tout à fait à gauche. Ils sont tous en train de faire une potion, avec plus ou moins de succès, surveillée par un autre druide qui est le chef, puisque, effectivement, à chaque réunion, ils élisaient un chef suprême qui détenait l'autorité. Un peu plus bas, je vous ai trouvé un dessin illustrant les druides, donc ça c'est plutôt un dessin moderne, mais remarquez qu'on représente toujours les druides et les gaulois, d'ailleurs, avec barbe longue ou grosse moustache. Toujours, toujours. D'ailleurs, si je vous avais demandé de dessiner un gaulois, je suis sûre que tous, vous me l'auriez dessiné avec une méga moustache. Alors d'où ça vient, cette image que les Gaulois sont très moustachus et très barbus? Eh bien ça vient de Jules César, c'est un cliché, c'est une idée reçue. Parce que dans son De Bello Gallico, quand il décrit un petit peu le physique gaulois, il dit qu'ils ont une barbe longue et les cheveux longs. Mais long, qu'est-ce que ça veut dire long? Est-ce que ça veut dire long comme moi? Ou long comme un garçon qui est un petit peu de longueur? Eh bien on ne sait pas, parce que les Romains, à l'époque de Jules César, la mode est aux cheveux très courts et à la barbe totalement rasée. Donc pour César, cheveux longs et barbe longue, ça veut dire 2-3 poils sur le menton et des cheveux qui arrivent aux oreilles, quoi. Donc, ils n'avaient pas les cheveux et les barbes aussi longues, ça va, mais c'est un cliché répandu par Jules César. Sur la dernière feuille, vous avez à nouveau un dessin tiré d'une BD Astérix, BD qui s'appelle le devin d'ailleurs, donc devin, espèce de prêtre qui prédit l'avenir. Ce devin est représenté tout à fait à droite, il a une peau de loup sur les épaules et la tête. Il est en train d'essayer de prédire l'avenir en ouvrant un pauvre poisson qui n'a rien demandé pour examiner ses entrailles. Vous remarquez l'air totalement angoissé de tous les autres Gaulois qui assistent à la scène. Sont tous angoissés, sauf un, Astérix, qui regarde vers vous en clignant des yeux, parce que lui a bien compris que ce charmant devin est un charlatan, c'est-à-dire un menteur. Et enfin, comme promis, une petite représentation d'une déesse associée au cheval chez les Gaulois, c'est la déesse Epona. Vous pouvez d'ailleurs écrire Epona à côté de l'image, ça s'écrit comme ça s'entend, E-P-O-N-A. Voilà mes chéris, donc j'espère que c'était assez clair. J'espère vous revoir bientôt quand même, prenez bien soin de vous et travaillez un petit peu tous les jours quand même. Allez, courage à tous!